24 juillet 1847, 6 heures du matin. Joseph Carcassonne, juge suppléant du tribunal de première instance de Saint-Girons, arrive à Seix afin d'élucider les circonstances de la mort dramatique d'un berger des estives de la Paul Ajas Osteran. Sur les lieux, le juge apprend que 7 gendarmes, accompagnés du docteur Rogal, médecin légiste, viennent de se rendre au hameau de Cap-Vert afin de procéder à l'autopsie de la victime. Le juge Carcassonne, accompagné de ses collaborateurs, entreprend alors de remonter la vallée du Salat jusqu'à l'habitation du défunt. Chargé de poursuivre l'enquête, il entend bien se rendre jusqu'aux estives d'Arreu afin d'éclaircir les circonstances de cette mort. Après avoir passé le pont de l'atoll, il croise le convoi escortant le docteur Rogal. Ce dernier expose avec force détail les résultats de l'autopsie et précise que la mort de Gosseran est secondaire, je cite, à une blessure faite avec un instrument tranchant ayant déterminé un épanchement de sang dans le cerveau. Tels sont les termes déposés dans le procès verbal de l'enquête. Après une longue discussion, le juge Carcassonne reprend sa route et arrive à Coufflens alors que le glas résonne sinistrement. S'approchant de l'église, il se rend compte que l'office funèbre en l'honneur d'Ajax Gosseran touche à sa fin. Pénétrant avec détermination dans la nef bondée, il va droit vers le curé afin d'interrompre la cérémonie funèbre. Sur un ton comminatoire, il demande à ce que le cercueil soit ouvert sur le champ. Dans une atmosphère particulièrement chargée et lourde, on l'imagine, le prêtre fait ouvrir la bière. Selon le compte rendu, lorsque la victime est découverte, le juge Carcassonne ne peut supporter la vision de ce visage maculé de sang et des linges souillés entourant la blessure. Il fallut 3 longues heures d'ascension pénible pour la petite troupe de juristes. Enfin, ils arrivent au pâturage d'Ola afin de mener leur enquête. Tels sont les faits rapportés par le dossier de procédure. Cette sinistre histoire témoigne de la présence d'une violence diffuse et de sa banalisation mérite d'être replacée dans son contexte. Nous sommes en 1847, sous les Philippes, époque marquée par un accroissement sans précédent de la population de nos montagnes couseranaises. Les estives sont surchargées et l'accès au point d'eau, au pâturage, est soigneusement réglementé. Le principal moyen de prévenir les violences est de parvenir à une délimitation aussi exacte que possible des territoires pastorés. Fossés, ruisseaux, bois furent mis à contribution sans pouvoir régler la question. Aussi loin que remontent les investigations dans le passé, il s'avère que le montagnard couseranais combina toujours le recours à la violence et la recherche de solutions pacifiques. Les longues disputes concernant les limites de territoire, le partage des communaux, a de tout temps déclenché de vives rivalités et des haines ancestrales. Les coutumes, les droits d'usage lentement élaborés et constamment réactualisés ne permirent en fait pour les spécialistes que de brèves périodes d'accalmie. Prétendant à l'éternité de ces chartes, obtenues souvent par l'arbitrage du Seigneur, voire des autorités ecclésiastiques, il ne résistait pas en cas de crise sociale comme celle qui fut déclenchée dans le milieu pastoral du Haut-Couseran dans les années 1840. Le randonneur ou l'autoriste citadin du XXIe siècle pourrait être tenté de juger sévèrement ses pasteurs prompts à s'armer de haches pour un arpent de terre, quelques rochers ou même quelques touffes de fougères. En fait, ces pasteurs défendaient un système d'exploitation garant de leur survie. Mais revenons au contexte plus général de ces estives et essayons de comprendre pourquoi cette rixe mortelle a eu lieu. De par sa situation de ville frontière avec l'Espagne, la ville de Seix s'était vue accorder de nombreux privilèges remontant pour certains d'érudits à Charlemagne. Ces droits, confirmé par Philippe le Hardi et Henri II en 1547, était la contrepartie d'un devoir de surveillance de la crête frontière. Les limites seixoises allant jusqu'au port d'Ola, il était tout à fait normal que ce rôle puisse être dévolu aux pâtres des hameaux les plus proches, comme ceux de Cap-Vert. donc des hameaux plus proches des ports frontaliers. Les habitants du hameau de Cap-Vert utilisaient les cabanes des estives d'Arreu qui s'étendaient alors jusqu'à la frontière avec l'Espagne. Souhaitant bénéficier de ces droits acquis, ils refusèrent avec violence l'irruption dans le secteur de bergers venant du bourg de Seix, bourg de Seix qui est situé à plus de 15 km des lieux des pâturages d'Arreu. Ces derniers, les bergers de Seix, du bourg de Seix, pouvaient sans doute paraître méprisants pour ces rudes montagnards accrochés sur les pentes abruptes du massif du Port Fonta, du Pic Fonta. Quoi qu'il en soit, un arrangement avait été conclu entre les deux groupes de pasteurs. Ces montagnards de Cap-Vert, tournés depuis toujours vers une certaine autonomie, ont été bercés dès leur plus jeune âge par les récits de leurs ancêtres. Dans ces sociétés traditionnelles, où les grands-parents apprennent le monde aux enfants, la mémoire des individus est le principal véhicule du savoir. Ceux qui peuvent remonter le plus loin dans le temps savent le plus de choses dans ce contexte. Leurs souvenirs, qui sont ceux de tout le village, peuvent faire ressurgir des faits et des haines vieilles, vieux, ou plutôt vieux, de plusieurs siècles. Depuis toujours, à Cap-Vert, les rapports avec l'Espagne coulaient de source. Les échanges avec les Aranais ou ceux du Haut-Palliars ont toujours fructifié, notamment lors des foires. La contrebande, le transfert illicite du bétail a continué malgré les différents blocus avec l'Espagne. Mais revenons sur ces estives d'Arreu et sur ce conflit. Les membres des deux sociétés pastorales, dont ceux de Cap-Vert et ceux du bourg de Seix, avaient donc coutume de conduire tous les ans leur bétail sur les montagnes d'Arreu. Selon les termes de l'accord, une partie de ces estives aurait été distraite du libre parcours des ovins pour être exclusivement réservée à la nourriture des vaches allées. Les estives d'Ola ou d'Arreu, insérées dans le cadre grandiose du Mont Valier, de l'imposante serre du Durban menant au Pic Fonta, vont jusqu'au port d'Ola, limitées par les Cunzola et les flancs du Pic du Berbeguet, les acteurs du drame logés près de la frontière espagnole. Lorsque le juge Joseph Carcassonne, juge suppléant, se rend sur les lieux afin de mener dans son enquête, son compte rendu est significatif. Écoutons-le. Donc, c'est le juge Joseph Carcassonne qui parle. Après 3 heures d'une ascension pénible, nous parvenons au pâturage d'Ola, endroit éloigné de plusieurs lieux de toute habitation. Deux huttes ou cabanes ont été construites dans ce lieu voisin de la frontière espagnole. Elles sont éloignées l'une de l'autre d'environ 400 pas. Leur isolement dans ces montagnes expose les bergers à avoir besoin à tout moment les uns des autres. En qualifiant les cabanes de huttes, le juge suppléant trahit sa surprise. En effet, selon les chroniqueurs comme Souly en 1819, ces cabanes étaient composées d'un pignon à pierre sèche sur lequel est appuyé le bout d'un soliveau dont l'autre extrémité repose sur la terre. Quelques barres de bois appuyées sur les deux côtés de cette pièce maîtresse soutiennent les mottes de terre mêlées de gazon, la gerbos, qui servent de toiture. La fumée sortait par la porte toujours ouverte. Selon Soulier, on s'y introduisait en s'appuyant sur les mêmes. Les occupants ne pouvaient y contenir que couchés ou assis. On imagine la situation. Comme nous venons de le voir, les deux cabanes étaient distantes l'une de l'autre de 400 pas, selon les termes techniques, et étaient occupées par les bergers de Cap-Vert pour la cabane supérieure et par ceux du bourg de Seix pour la cabane inférieure. Le majoral de Seix était Antoine Rieux Lagor, celui de Cap-Vert, Joseph Douniac Joly. Il faut savoir qu'une stricte discipline régissait la vie pastorale. Cette fonction de discipline était assignée au majorau qui réglait la vie de la cabane, répartissant à chacun ses différentes tâches. Le majorau était aussi le porte-parole de la cabane. C'est comme nous le verrons tout à l'heure, Joseph Douniac, majorau de Cap-Vert, qui ira exposer ses doléances auprès du règlement de la cabane de Seix. Le représentant de la cabane de Seix, ou plutôt le majorau, était Antoine Lagor. Depuis des temps immémoriaux, les usagers de cette montagne étaient tenus par cette convention réciproque qui consistait à ne pas conduire des bêtes à laine dans un quartier réservé aux vaches. Or, voici qu'en ce jour du 16 juillet 1847, un jeune berger du bourg de Seix enfreint la règle. Pierre Barrault, Pey et Paul Agence Gosserand de Cap-Vert le surprennent et vont lui faire des remonstrances. Le soir venu, Joseph Doniac Joly, majorable de Cap-Vert, investi de la mission d'émettre une protestation auprès des occupants de la cabane voisine, essaye de rencontrer l'Agore. Étienne Piquemal de Seix, visiblement choqué par ses réflexions, bouscula violemment le majoral Doniac de Cap-Vert, tandis que Jacques Sens lui assenait un coup de bâton sur la tête. Les cris stridents du majoral de Cap-Vert, tombé à terre, provoquèrent l'irruption de Pierre Barrault Peille et de Paul Agence Gosserand, visiblement déterminés à défendre leur chef. De leur côté, les Seixois appellent à l'aide de leurs camarades. Compte tenu de la proximité des deux cabanes, un rassemblement houleux s'installe et chacun est prêt à en découdre. De part et d'autre, on est armé de gros bâtons et de haches. L'atmosphère devient particulièrement tendue, on imagine. Selon les dires des témoins chargés de rapporter les faits lors du procès, une violente échauffourée s'en suivit. Jacques Sens du Pichet raconte qu'il fut ce soir assailli par sept individus. Frappé à la tête à coups de bâton, les habits inondés de sang, il s'enfuit illico vers sa cabane. S'armant à son tour d'un gourdin, il se mit à taper, selon ses dires, dans le tas, sans même savoir sur qui il cognait, ce qui s'appelait vraiment taper dans le tas. Sur le hauteur, les cris de la rixe alertèrent les vachers disséminés dans les pâturages alentours. On entendit des cris comme « Ayaou ! Ayaou ! Qui sont mortes ?» Soudain, un bruit sinistre retentit, suivi du hurlement de douleur de Paul Agence Gosserand. Ce dernier venait de s'effondrer, victime d'un coup de hache à la tête. Selon le compte rendu, Paul Agence Gosserand aurait hurlé avant de rendre le dernier soupir « Mundi ou Kemantuach ?»« Mon Dieu, ils m'ont tué !» Devant la gravité de la situation, un calme lourd s'empare du théâtre de l'Algarade. Ceux de Cap-Vert s'empressent de charger le blessé et de le transporter à la cabane. Attirés par les bruits, les pasteurs de Seix se rendent en masse sur les lieux de l'altercation, quittant leurs vaches qu'ils étaient en train de traire. Les plus jeunes, âgés de moins de 18 ans, visiblement effrayés, se réfugient à l'intérieur de la cabane. Lorsque Paul Agence Gosserand s'effondre, le calme et l'angoisse s'emparent des lieux. Le blessé est ramené dans son logis, sur une échelle, avec des moyens de fortune, bien sûr. Pendant 6 jours, il sera gardé par sa famille avant de rendre l'âme. La gendarmerie n'est avertie que lorsque l'évolution de son état laisse augurer une issue fatale. La loi du silence s'empare des lieux. Lorsqu'il rend son dernier soupir, 6 jours après la rixe, la famille de Gosserand porte alors plainte. Ce type de comportement était pour le moins classique en une époque où chacun refusait plus ou moins l'irruption de la force publique dans les affaires de la communauté. On souhaitait régler les litiges soi-même. Il faut dire que ces véritables batailles répondaient à des rites spéciaux. Elles se déclenchaient le plus souvent qu'à titre dissuasif. Malgré l'échauffement, il existait la volonté de limiter le volume des violences. Ces enfants d'une terre ingrate se battaient avant tout pour la jouissance d'un territoire. Cependant, des précautions furent prises, car on garda précieusement le bonnet de laine entaillé par le coup de hache fatal. Il fallait au maximum dissimuler la nature du décès, qui pouvait mettre en cause les autres, en quelque sorte. La cour royale, nous sommes sous Louis-Philippe, donc cette cour royale de Toulouse, démise en accusation, considéra que les Seixois se sont mis en infraction en amenant leurs brebis dans un endroit indéfend. Refusant les remontrances de leurs vis-à-vis, ils se seraient permis de voie de fait envers le majoral de la cabane de Cap-Vert, qui avait accepté la mission de porter la parole à l'agore majorale de Seix. Selon le magistrat de la cour royale de Toulouse, les violences qui suivirent auraient pu être pardonnées. Je cite, « pour des motifs d'indulgence et compte tenu des mœurs et des caractères des prévenus ». On voit à peu près le jugement de valeur. Malheureusement, toujours selon ce juriste, l'indulgence ne peut être mise de mise du fait de la conduite d'un troisième prévenu qui, armé d'une hache, frappa froidement Paul Ajas Gosserand à la tête, qui n'a survécu, je cite, que quelques jours à sa blessure. Bien sûr, lors du procès qui suivit, chacun défendit avec acharnement sa vérité. Ceux de Cap-Vert dénoncèrent un manquement grave à l'entente séculaire liant les deux communautés de pâtres. Pour les bergers de Seix, ceux de Cap-Vert menaient depuis quelque temps les brebis sur les terrains réservés aux vaches. Se sentant à leur tour dégagés de leurs obligations, ils laissèrent divaguer sur les lieux leurs ovins. Lorsque le randonneur se rend dans ces contrées, il peut remarquer des pierres sous forme de ruines. Ce patrimoine bien fragile, le vestige de murs surplombés d'une rude charpente, retourné inexorablement à l'état de simple tas de pierres, reste le seul témoin d'événements pastoraux ayant marqué les mémoires de la région. Si les communautés de montagnards, comme celle que l'on vient d'évoquer, ne recherchaient pas systématiquement l'affrontement et faisaient de réels efforts pour les éviter, les germes des conflits couvaient en permanence, n'attendant qu'un prétexte futile pour s'embraser. On remettrait en permanence sur le métier les différentes procédures et répartitions des droits d'usage et de dépaissance. Ces rudes fils d'une terre parfois ingrate se battaient pour défendre leur instrument de survie. Cette lutte que l'on peut qualifier de politique, puisque d'elle dépendait la survie de la communauté, était parfois reconnue par le pouvoir central. Dans le cas du conflit entre Seix et Cap-Vert, la réflexion du juge de la Cour royale de Toulouse, reconnaissant une certaine légitimité à ces rixes de rude pasteur, semble bien le confirmer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.